Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je commence ce matin par la situation au centre-ville à l'Université McGill. D'abord, la Cour supérieure qui a rejeté la demande d'injonction qui avait été présentée par deux étudiants. La juge Chantal Masse a tout simplement dit « Il n'y a rien qui démontre l'urgence de la situation » que ces deux plaignants, ces deux étudiants qui reprochaient finalement aux manifestants d'avoir créé une espèce d'environnement hostile. La juge a dit, écoutez, ces personnes-là n'ont pas été directement touchées. C'est une peur assez subjective. Et la liberté d'expression l'emporte. Premier constat. Deuxième constat, l'Université McGill dit, malgré tout cela, et c'est renchéri par le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Il y a des règlements qui encadrent la vie à McGill. Et donc, la requête est toujours là, demandant à la police d'intervenir pour démanteler les barricades, les tentes et sortir les manifestants. Alors, donc, on peut déjà constater que ce matin, les campements sont maintenus, que les manifestants n'ont pas l'intention de partir. L'université appelle au dialogue, création d'une espèce de forum au sujet d'une des demandes des manifestants, qui est, au-delà de la guerre Israël-Hamas, de faire en sorte que l'université se retire d'investissements dans des entreprises de guerre ou des entreprises qui sont liées à Israël. Le vice-recteur nous disait hier qu'il y avait des procédures qui étaient prévues. Donc, c'est un peu la proposition qui est faite. Alors, est-ce que la police va débarquer aujourd'hui? Probablement pas. Il peut y avoir des discussions. Combien de temps ça va durer? Ça reste à voir. Il y a eu un peu d'énervement hier soir parce que vous aviez la traditionnelle manif anticapitaliste. C'est toujours le même cirque, c'est le même scénario, là. C'est écrit pratiquement comme dans un film, là. Alors, on manifeste au centre-ville, on casse des vitrines, on pète ce qu'on a sur le chemin, on essaie de coltailler avec la police, puis là, il y a une arrestation, puis il y a du vandalisme. Mais quand vous voyez l'anti-émeute, parce que c'est à proximité, là, les manifestants craignaient que les policiers de Montréal s'en allaient vers eux, ce qui n'était pas le cas. Et il y a toute cette question de ces manifestants qui viennent de McGill, mais d'ailleurs, là, de d'autres universités, et des voix dissidentes dans la communauté juive de Montréal, une organisation qui s'appelle Voix juive. Je vais recevoir un de leurs représentants ce matin, qui insiste pour dire il faut faire attention de ne pas mêler les choses. Être contre la politique de Netanyahou, ce n'est pas de l'antisémitisme. Être contre les opérations militaires à Gaza, ce n'est pas de faire preuve également d'antisémitisme. Des nuances. Il y a à Québec un homme de confession juive et sa conjointe qui ont envoyé une mise en demeure à une synagogue. Pourquoi? Parce qu'on les a sortis, on les a empêchés avec leur famille de célébrer la Pâque juive en raison de leur position concernant ce qui se passe à Gaza. Alors, c'est sûr qu'il y a énormément de tensions. Et puis, sur le terrain, le Hamas qui a dit pour l'instant, on n'est pas d'accord avec les conditions de cessez-le-feu qui ont été proposées. Et on pense qu'il faut poursuivre les négociations, le dialogue. Donc, l'espoir d'une pause est toujours réel. Mais Blinken, le secrétaire d'État, répète qu'il en fait une priorité et il veut absolument être capable de signer un accord de paix temporaire pour obtenir la libération d'otages et aussi de prisonniers politiques. Puis je me permets d'ajouter, parce que l'aide humanitaire, c'est fondamental quand vous regardez le contexte actuel, et ça demeure difficile. Ça demeure extrêmement difficile. Il y a des colons israéliens qui ont attaqué des camions qui faisaient route vers Gaza. Donc, la matière première est là, mais les corridors pour l'acheminer demeurent, complexes. Surveillance de l'armée israélienne, des gens qui tentent de bloquer Et ce qui fait que ça se fait au compte-gouttes. Et puis, du côté des campus américains, on surveille encore la situation à UCLA, donc c'est en Californie. Il y a eu des affrontements hier entre pro-palestiniens, pro-israéliens. Ça a dégénéré, la police est intervenue. Et là, les policiers sont retournés, ils sont autour et ils disent aux manifestants qui restent, qui ont changé. Il y en a beaucoup qui sont partis hier. Ceux qui demeurent portent des casques, des masques également, poussent des conteneurs de déchets. Et probablement que ce sera une confrontation directe avec la police. Et les policiers leur disent, vous partez ou bien on vous arrête. Et ça va se faire dans les prochaines heures. Du côté de l'Université Columbia, à New York, après l'intervention massive, c'est une pause. La police est présente jusqu'à la mi-mai. Et il faut dire que la plupart de ces campus universitaires sont presque en pause actuellement. Parce que fin de la session régulière, avant les cours d'été. Et puis, je vous parle également de ce qui se passe en Ukraine. Les États-Unis qui accusent la Russie d'avoir utilisé un agent chimique contre les forces ukrainiennes qui seraient en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Et également, nouvelle attaque russe de missiles qui a fait une dizaine de blessés à Odessa, qui est une ville portuaire en Ukraine. Et depuis le début, il y a eu une série d'attaques meurtrières concernant Odessa. Je reviens sur le réseau de la santé. Hier matin, je vous parlais d'un CHSLD dans l'est de Montréal où il y avait des quotas concernant les serviettes, les débarbouillettes, les piquets. Et c'est une préposée aux bénéficiaires qu'il faut protéger parce que l'omerta, vous le savez, c'est une loi qui est, disons, sans compromis. Puis les gens veulent pas perdre leur job. Je fais entendre la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, qui répondait justement à ce qui se passe dans ce centre de soins de longue durée.
Mais c'est inadmissible, là. Écoutez, là, je pense que dans les CHSLD, on travaille tellement fort depuis 2021 avec notre politique et notre plan d'action pour améliorer les CHSLD. On a fait beaucoup de choses comme gouvernement, vous le savez.
Bon, ça, c'est le baratin habituel, là, mais on va appeler un chat. Il y a des quotas qui existent. C'est pas moi qui l'invente, là, c'est confirmé par le CIS. On a fait un rappel à cet établissement de respecter le quota des barbouillettes. Comment on établit ça, je le sais pas, mais les photos qu'on m'envoie montrent qu'il y a, disons, une gestion à la Séraphin des stocks, là. C'est-à-dire que, tu sais, des chariots qui sont vides, puis on dit aux préposés, essayez de pas trop en prendre. Tu sais, ça me rappelle la saga des masques qu'on cachait parce qu'on n'avait pas. Alors, quand la ministre dit officiellement, il n'y a pas de quotas, c'est pas vrai. Il y en a des quotas dans beaucoup d'établissements. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'entends des bruits. Difficile de se faire confirmer parce que il y a tout un langage bureaucratique et de langue de bois. Qu'il y a actuellement dans le réseau de la santé un exercice qui consiste à réduire les dépenses. Et là, je le sens me dire non, c'est une baisse de l'augmentation. Je suis habitué au charabia, là, pour noyer le poisson, mais que des hôpitaux sont appelés à revoir les budgets et à réduire les dépenses. Si vous avez des échos de ça, si vous savez des choses, vous pouvez me partager ces informations, parce que c'est assez difficile, parce que c'est sûr que officiellement, on va dire non, cher Khan, c'est pas ça qui se passe. On me raconte même qu'il y a des bénévoles au CHUM qui se font couper des avantages. Des bénévoles. Et Dieu sait que les bénévoles au CHUM, puis dans les hôpitaux en général, mais parlons de ceux du CHUM, sont essentiels dans un hôpital. Ils sont pas payés. Ils ont droit à certains avantages et dans la logique bureaucratique, on aurait coupé ses avantages. C'est ce qu'on me dit. Si encore là, vous avez de l'info, vous pouvez me partager ça. Puis je vous donne un autre exemple ce matin. Là, c'est un mélange d'immigration et du réseau de la santé. Je vais recevoir tantôt Dina Lema et son conjoint François Cassala. Madame Lema est une infirmière. Je vous résume son parcours. Infirmière depuis 16 ans, originaire du Congo. Elle a été recrutée par le gouvernement lors des fameuses journées du Québec quand on cherche de la main-d'œuvre venant de l'étranger pour le réseau de la santé. En mai l'an passé, ça fait un an, elle a eu son permis d'études pour ce qu'on appelle la mise à niveau pour devenir infirmière. Et elle avait des assurances privées avec le cégep durant ses études. Elle a été embauchée par le CIUSSS de la Mauricie, centre du Québec. Donc, elle travaillait en même temps comme préposée aux bénéficiaires en centre de soins de longue durée. Elle apprend le système québécois, est en train de parfaire sa formation. Donc, elle devient ultimement une infirmière qui va travailler Mauricie, centre du Québec. Elle est enceinte. Eh bien, elle n'a droit à aucune couverture par la Régie de l'assurance maladie. Elle croise des médecins qui lui disent « Madame, on vous prendrait en charge pour votre grossesse, mais vous n'êtes pas couvert. » Donc, il n'y a pas de suivi. Une réfugiée, par exemple, dans le même cas, aurait droit à l'assurance maladie. Elle, non. Et son enfant à naître va être couvert parce qu'il va être né ici. Lui, il va être couvert par le Régie d'assurance maladie. Tout ça montre qu'il y a des fils, encore une fois, qui n'arrivent pas à être attachés. Et cette femme-là est venue ici. Elle a donc développé avec M. Cassala cette relation. Lui, ici, depuis longtemps, il est Québécois, il est reçu, tout ce que vous voulez, il est couvert, mais pas sa femme. Tout ça pour un suivi de grossesse. L'assureur privé dit, ben nous, on paye pas pour des suivis de grossesse. Alors, c'est un exemple comme ça qu'on peut vous donner. Parlons un peu de taxes ce matin. Hier, il y avait ce sondage léger qui disait que les Québécois étaient pas mal tannés de payer et qu'on a cette forte impression que les montants payés ne se traduisent pas par des services efficaces. Vous savez, on paye, mais on a l'impression que c'est mal géré. Et ce sentiment touche l'ensemble des paliers de gouvernement. Là, ce matin, le Journal de Montréal nous parle des villes. Tu sais, les villes qui se plaignent de ne pas avoir d'argent, puis on n'a pas de sous, puis pas de budget. Les villes qui payent leurs employés plus que les autres paliers de gouvernement. Et M. Legault, qui les a traités de quêteux, il y avait quand même un point. C'est vrai que les villes accordent souvent des augmentations de salaire importantes et donne des conditions à tel point que la fonction publique à Québec, peut-être moins maintenant, je connais des gens, moi, qui ont perdu des collaborateurs qui sont allés travailler dans les villes parce que c'était plus payant. Donc, on apprend ce matin qu'il y a des villes qui achètent des véhicules comme Saint-Bruno de Montarville, véhicule neuf, un F-150 qui coûte 106 000 $. Puis l'autre ville, Saint-Félicien, qui a acheté un véhicule d'occasion pour 53 000. C'est comme si le mantra de certaines villes, c'était de taxer, 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 dépenser. Et l'autre, je pense à mes amis de Québec, Jonathan, vous aimez ça, Jackie Smith, qui est la chef de Transition Québec, donc conseillère municipale, elle dit qu'à Québec, on devrait financer la gratuité du transport collectif avec une nouvelle taxe d'immatriculation, comme on a à Montréal. Mais attendez, là, on parle pas de 50$, on parle pas de 200$. Elle voudrait facturer annuellement aux automobilistes de Québec 1167$. Sérieux, là? Sérieux, là. 1167$ par année par automobiliste. Quoi se questionner? En passant, la structure qui chapeaute le transport en commun dans le Grand Montréal, va rendre publique aujourd'hui la grille tarifaire. Là, il y a eu des problèmes avec la carte Opus, là, puis une explication de... Parce que c'était le 1er mai, les gens rechargeaient, puis il n'y avait pas nécessairement la bonne procédure, ce qui fait qu'il y a eu panne pendant une couple d'heures. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, là, c'est que, officiellement, on va, j'imagine, apprendre qu'on coupe dans le service de la navette fluviale, qui est extrêmement populaire, et on va avoir un portrait d'ensemble de la tarification. Je vais en reparler tantôt avec Jonathan. On a échangé rapidement hier soir, mais ça a l'air que Mme Guilbeault à Québec commence à en avoir plein son casque de la bureaucratie du transport collectif à Montréal. Quand le maire de Laval m'explique qu'il y a bien du monde autour de la table et que ça placote puis qu'il n'y a rien qui se passe, en gros. Quand la ministre me dit la semaine dernière qu'elle tape du pied puis que les PowerPoint est tannée, il est en train de se passer quelque chose dans le paysage. Est-ce que ça va faire en sorte que l'efficacité sera au rendez-vous? Ben, ça reste à voir également. Dans les autres nouvelles, la presse nous dit ce matin qu'il y a un plan pour rapprocher le réseau anglais de Radio-Canada et le réseau français de Radio-Canada, donc CBC et Radio-Canada. C'est une demande du conseil d'administration. C'est pas très clair ce que ça veut dire, là. Mais on veut de la convergence alors qu'on fait face à des géants numériques. Puis là, on mandate des firmes pour faire des propositions au conseil d'administration. Alors, ça veut dire quoi? Une tête unique pour les deux réseaux. Puis là, ça crée des inquiétudes. Par expérience, je peux vous dire que faire de la télé et de la radio en français au Québec, c'est pas la même affaire que faire de la télé et de la radio en anglais. Ce sont deux univers différents. Je dis pas qu'il n'y a pas des ressources communes qui peuvent exister en information, par ailleurs, mais ce n'est pas la même vision. Et on sait que ça brasse depuis un bout de temps dans les hautes sphères de Radio-Canada. La présidente, Mme Tate, va quitter dans quoi? Un an, à peu près, même pas. Michel Bissonnette, qui était le patron de la radio et de la télé francophone, a quitté. Donc, que va devenir Radio-Canada? C'est encore assez flou. Puis est-ce qu'on va tuer l'identité du réseau français? Parce qu'on veut en faire une structure comme ça, nationale. Donc, dans la presse, vous avez les détails. Il y a, à la Chambre des communes, ça se pogne encore entre M. Poilievre, le président de la Chambre, M. Fergus, et le premier ministre Trudeau. Et donc, il y a une volonté des conservateurs de sortir le président. Puis tu sais, là, c'est une mise en scène assez trouble. Vous avez Poilievre, où Trudeau dit « Tu te tiens avec des néo-nazis, tu fréquentes des suprémacistes blancs. » Ce qui est évidemment nié par Poilievre, quand on parle du groupe Diagolon, qui est un groupe qui a pris naissance lors de la crise des vaccins, puis des antivax, le convoi de la liberté, c'est un ancien militaire qui est à la tête de ça. Donc, oui, il y a des gens d'une certaine mouvance d'extrême droite dans ça. Le président de la Chambre est noir, et M. Trudeau dit, ben, j'attaque Poilievre sur la question du racisme et de ses mauvaises fréquentations. Alors, le président de la Chambre dit qu'il va rester là. Mais l'enjeu derrière tout ça, c'est quand même l'espèce de volonté de la Colombie-Britannique de dire on va arrêter la consommation de fentanyl puis d'héroïne dans l'espace public. Ça ne marche pas, cette politique-là, qui a été essayée en Colombie-Britannique. Et là, M. Trudeau dit, ben on va attendre de voir les données, on va se renseigner davantage. Mais c'est clair qu'on a des problèmes majeurs. On va aussi parler ce matin avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui dit, après sa période de réflexion, dans la tourmente d'un parti qui est divisé, que Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement. Peu de mots, mais fort en conséquence. Puis ça prend un courage de dire à Québec solidaire, pas comme ça qu'il l'a dit, mais je traduis, c'est beau les idéaux, les dogmes, la difficulté de gouvernance, mais si on veut être sérieux, changer les choses, il faut penser à prendre le pouvoir et pas strictement à adopter des plans qui sont merveilleux en théorie, mais qui ne reflètent pas la priorité puis les intérêts des Québécois. Donc, à suivre quand même, et il sera avec nous ce matin.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Je vais parler un peu de santé, puis aussi d'immigration ce matin. Pourquoi? Parce que je vous présente l'histoire d'une infirmière qui nous arrive du Congo, qui a été recrutée par le ministère de la Santé dans toutes ses opérations visant à aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger pour justement combler les postes vacants ici au Québec. Elle s'appelle Dina Lema. Elle est candidate pour être infirmière. Elle est dans le processus, évidemment, d'études. Elle a déjà un emploi dans le réseau de la santé. Madame Lema, bonjour.
Bonjour.
Et François Cassala, qui est son conjoint. Bonjour, Monsieur Cassala.
Bonjour.
Madame Lema, je commence avec vous. D'abord, parlez-moi un peu de votre pays. Vous êtes originaire du Congo. Vous avez travaillé là-bas comme infirmière.
Oui, j'ai fini mes études d'infirmière en 2007. En 2008, j'ai commencé à travailler jusqu'en 2023, quand j'ai quitté le pays. En fait, j'avais travaillé peut-être dans tous les domaines, mais je voulais vraiment avoir quelque chose de plus, donc connaître ce qui se passe ailleurs, avoir une expérience internationale. Et quand j'ai vu le recrutement, que le Québec recrutait les infirmières d'Afrique, j'ai sauté sur l'occasion pour postuler et j'ai été retenue. On a fait 13 mois de démarches et puis me voilà, je suis arrivée au Québec.
Quand vous arrivez, après avoir été recrutée, qu'on a retenu votre candidature, quelles sont les étapes que vous devez faire avant de devenir formellement là, et officiellement infirmière?
C'était assez long. Il fallait faire passer les entrevues, faire le test de français et faire les démarches avec l'OIQ.
L'ordre professionnel.
L'ordre professionnel. Ils nous ont envoyé de formulaires. Il fallait présenter à notre ordre du pays pour qu'ils puissent signer, pour attester que vous êtes vraiment infirmière. Et il y avait beaucoup, beaucoup de papiers. Donc, j'ai même oublié, c'était tellement long.
Donc, il y a une partie étude que vous devez compléter, une mise à niveau, là, comme on dit.
Oui, oui. On a eu l'inscription au Cégep, on a fait le CAQ, comme tout étudiant qui peut étudier au Québec. Et puis quand on est arrivé, on a fait la formation au Cégep. C'était une formation de mise à niveau, selon la prescription de l'OIQ. Il y a d'autres qui ont fait plus de mois. Moi, j'ai fait 9 mois parce que je n'avais pas de prescription. C'était juste la formation à l'intégration infirmière. Donc, voilà.
Donc, vous étudiez pour la mise à niveau.
Oui.
Puis en même temps, vous travaillez comme préposé aux bénéficiaires.
Oui. Quand on a commencé les études, 2 mois après, on a signé le contrat pour travailler comme préposé aux bénéficiaires. C'était une façon déjà de s'intégrer dans le milieu et connaître les usagers, comprendre le langage québécois, petit à petit. Donc, ça nous a beaucoup aidé aussi.
Et là, vous êtes enceinte?
Oui, présentement, je suis enceinte. La première fois, quand j'ai eu des malaises, je me suis présentée aux urgences. Là, c'était au mois de mars, juste à la fin de cursus scolaire. Je me suis présentée comme si j'avais vraiment des douleurs. Ils m'ont reçue et tout. Là, j'étais encore couverte par mon assurance en tant qu'étudiant. Et voilà. Après, quand ils ont fait des examens, des échographies et tout, ils ont trouvé que j'étais enceinte. Et la grossesse, il n'y avait pas de problème. Il fallait que je contacte un gynécologue pour un suivi. Et le gynécologue m'a dit, comme je suis étudiante, il ne peut pas me prendre en charge. La grossesse n'est pas couverte par mon assurance.
Ce que j'ai compris de votre assurance, c'est pour, puis là, on peut jouer sur les mots longtemps, là, les soins nécessaires, mais un suivi de grossesse,
non,
c'est pas couvert.
C'est pas couvert.
OK. Monsieur Cassala, vous êtes un citoyen canadien, vous êtes Québécois, vous êtes ici depuis longtemps, vous êtes couvert par la carte d'assurance maladie.
Oui.
Votre conjointe ne l'est pas parce qu'elle est avec un statut entre les deux, on va dire.
Oui.
Vous êtes malade, vous prenez votre carte et c'est couvert. L'enfant à naître, il va naître ici, donc il va être couvert. Mais pendant la grossesse, pendant cette période, tout le suivi ne peut pas être couvert.
Oui, c'est ça qui a soulevé un peu mon inquiétude parce que je me demandais comment ils peuvent être recrutés, qui viennent travailler ici, et puis qu'il y ait comme un vide entre le processus d'intégration jusqu'à devenir infirmière full, et qu'il y ait comme un vide au niveau de l'assurance santé. On a essayé un peu de se demander pour savoir pourquoi ils pouvaient avoir ce statut alors que c'est des personnes qui venaient vraiment en renfort. Parce que je me dis, être travailleur dans le milieu de santé, vous soignez du monde. Et si vous avez des questionnements dans votre tête, si vous êtes enceinte, personne ne peut vous suivre, personne ne veut vous prendre comme assurance dans les privés, c'est quel état que la personne va se situer. Et surtout qu'en plus de cela, il est en train de préparer encore son examen de l'ordre. Cela, ça a commencé un peu à m'inquiéter. J'ai dit, s'il y a des choses, peut-être aller dire pour que les choses puissent peut-être aller dans le sens où quand les infirmiers sont recrutés ou du monde qui viennent prêter main forte à la santé, qu'il y ait des questions des gens comme régler
Pour que ça soit clair.
Pour que ça soit clair.
Vous m'avez dit quelque chose tantôt d'important. Vous avez contribué à l'époque de la COVID là, et aux différents appels lancés par le gouvernement.
Oui, quand le premier ministre Legault a lancé appel pour les bras, les gens qui viennent prêter main forte, moi je suis mécanicien de formation, mécanicien diesel, mais je me suis dit, écoute, pour rester à la télé, voir toujours, aujourd'hui nous avons 500 morts, aujourd'hui nous avons 1200, 1500... Et c'est venu me chercher. Je me suis dit, je dois me lever, je dois aller aussi. Et je suis allé, je me suis porté candidat. Et puis, j'ai fait tout ce qu'il y avait des formations. Je commençais à travailler à l'hôpital pour prêter main forte comme la santé nous avait demandé à la période de COVID. Là.
Vous avez fait ça pendant combien de temps?
J'ai fait ça pendant 6 mois.
Et là, vous vous retrouvez avec votre conjointe qui a besoin d'un suivi qui est tout à fait normal, mais vous avez pas les moyens, puis vous avez pas non plus à payer pour ça, puis l'assureur dit ça c'est pas couvert, puis je regardais sur le site de la RAMQ, entre vous et moi là, c'est compliqué pour essayer de savoir, mais ce qu'on vous a dit c'est que ça prend la carte, pas de carte, vous pouvez pas avoir le suivi.
Oui, parce que dernièrement j'étais à l'hôpital, parce que quand je me suis dit que je suis à 12 semaines, normalement je dois être suivi. J'ai 41 ans, bientôt j'aurai 42. C'est ma première fois de tomber enceinte, donc ça demande quand même un suivi, c'est une grossesse à haut risque. Je suis allée voir le médecin, et même le médecin était étonné. Il a dit, mais comment ça, les gens qui viennent nous aider, comment ils ne peuvent pas avoir d'assurance maladie? Moi, je suis là, mais va voir avec ton assureur, parce que là, la grossesse n'est pas couverte. Tu n'es pas assuré. On ne peut même pas faire des prises de sang. Tu ne peux pas voir le médecin. Donc, c'est compliqué. J'étais tellement ébranlée. J'ai sorti.
C'est un facteur de stress additionnel que vous vivez.
J'étais tellement stressée. Je me demandais la suite sera comment. Et s'il y a un problème avec mon enfant, ça sera comment. Donc, ça m'a vraiment stressée.
Comment vous réagissez-vous comme conjoint, comme père de cet enfant-là?
Ben, c'est là que je me mets à sa place. Je me dis, une personne qui doit subir toute cette pression-là et puis qu'elle va se lever matin pour aller travailler, soigner encore des patients, ben, pour moi, c'est un risque. Je me dis, il peut mêler les pilules à donner au lit 1 par rapport au lit 2, tout ça. Je me dis, mais est-ce qu'il y a peut-être moyen de voir comment on peut pallier à cette situation que je trouve que peut-être c'est quelque chose qui peut se donner à... Je me rappellerai de mon histoire propre. Quand je venais ici, j'avais mon visa de résidence permanente. Et quand je suis arrivé, 24 heures après, je suis allé pour avoir ma carte de RAMQ. Mais les gens qui viennent nous prêter main forte, qui viennent comme des démarches légales reconnues par le gouvernement, aller chercher par le gouvernement, ne serait-ce que leur accorder cette carte d'assurance maladie, ça allait encore alléger leur...
Mais vous arrivez comme réfugié au Canada, on va vous donner l'accès aux services sociaux, à la carte et tout ça. Puis, de l'autre côté, on a le Québec qui a besoin de gens comme vous qui recrutent à l'étranger, puis on les enferme dans une bureaucratie avec des règles compliquées. Tout ça parce que c'est pas sorcier ce que vous demandez, là, c'est d'avoir un suivi médical pour vous, votre enfant, pour que tout se passe le mieux possible.
C'est ça.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Bonne chance à vous. Et on va essayer de faire un certain suivi. J'imagine qu'au cabinet du ministre de la Santé, on écoute ce qu'on est en train de se dire. Mais ce que je voudrais souligner en conclusion, c'est que le Québec a besoin de gens qui viennent de l'étranger. Et c'est particulièrement vrai dans le réseau de la santé. Il y a tout un débat sur l'immigration, mais c'est pas ce débat-là ce matin. La question, c'est quand on recrute, puis qu'on vient chercher des gens dans certains pays, dans le cas qui nous intéresse ce matin, le Congo. Et on dit, venez, vous avez les compétences, on a besoin de vous. Ces gens-là viennent, ils se soumettent à toutes nos procédures. Ils vont chercher la mise en niveau. Ils travaillent en plus, ils travaillent comme préposés aux bénéficiaires en Mauricie, centre du Québec, là où on a encore besoin de gens. Et elle a une assurance qui couvre un certain nombre de problèmes, mais pas une grossesse. Donc, il n'y a pas de suivi. Il y a quelque chose qui marche pas. Et j'ai essayé de comprendre sur le site de la RAMQ, là, parce qu'il y a sans doute la bureaucratie va se manifester, puis on va nous dire, ouais, mais vous n'avez pas compris. Pouvez-vous rendre ça simple au monde? C'est-tu possible de dire, je vous ai recruté, je contribue, je suis venu vous aider, pourriez-vous me rendre la vie un peu plus simple parce que je suis enceinte, puis je porte un enfant, puis j'aimerais ça que ça aille bien, puis que ça soit couvert pour qu'après ça, je puisse reprendre mon travail dans le réseau de la santé. Il me semble que c'est pas si compliqué, en espérant que ça débloque.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Depuis le début de la semaine, Québec solidaire est secoué par une crise d'émission de la co-porte-parole Émilie Lessard-Terrien, qui très clairement a exprimé dans une lettre les divergences avec l'autre co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois. C'était bien écrit, nuancé, mais en même temps, le message était clair. Des divergences de point de vue, de façon de faire. Gabriel Nadeau-Dubois a fait un pas de recul, a réfléchi et est revenu hier pour dire essentiellement que Québec solidaire doit changer et doit devenir un parti qui veut gouverner. Il est avec nous ce matin. Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, on vous a senti secoué là, par la démission oui. de votre co-porte-parole. Vous avez décidé de prendre cette pause-là de réflexion de 24 heures. Pourquoi vous avez été à ce point surpris et secoué?
C'est pas parce qu'on fait de la politique, même depuis un moment, qu'on est fait en béton. Hein. Quand il y a des gens proches de nous, des collègues comme ça qui nous quittent, et qui nous quittent dans une situation difficile, ça ébranle. Et moi, je me suis posé des questions, ça m'a affecté, et j'ai assumé de prendre une journée pour réfléchir à la suite des choses. Et j'ai réfléchi à la fois à ce que je devais changer moi comme porte-parole, comme leader de Québec solidaire en collaboration avec l'autre co-porte-parole, et aussi à ce que Québec solidaire doit faire comme changement pour qu'on décolle, pour qu'on pense à la prochaine étape, parce que je pense qu'on est rendu là.
Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, en quoi vous devez changer? Qu'est-ce qui irrite des gens de votre parti? Puis qu'est-ce que vous allez modifier dans vos façons de faire?
Moi, je n'ai pas vu venir le départ d'Émilie, je n'ai pas vu venir son arrêt de travail, je n'ai pas vu venir sa démission non plus. Ça, je le regrette, c'était ma collègue, co-porte-parole, et j'ai pas vu ça venir. Donc, de toute évidence, faut que j'écoute, faut que je sois sensible aux gens autour de moi, parce que moi, je le regrette de pas avoir vu venir cet épuisement, puis ensuite cette démission. Mon introspection va se poursuivre. Ceci étant dit, je trouve ça important, puisque le parti traverse des moments difficiles, d'être clair sur c'est quoi ma vision pour la suite des choses à Québec solidaire. Il y a une situation qui est pour le parti difficile depuis plusieurs mois, et c'est bien avant le livre d'Émilie, le livre de Catherine Dorion, le départ d'Émilie. Il y a des questions politiques fondamentales qu'il faut se poser. Comment on fait pour devenir un parti de gouvernement? Moi, c'est l'ambition que j'ai, pas pour moi, mais pour le parti que j'ai choisi, Québec solidaire. Je pense qu'on est rendu là. Il faut passer à la prochaine étape. Et ça veut dire faire des changements.
Je vais y venir à ce volet-là de parti de gouvernement, mais c'est le dernier parti au Québec qui, en tout cas dans mon esprit, aurait pu être accusé d'avoir un boys club. C'est ce que j'entends depuis lundi. Des gens de votre parti qui disent, il y a Gabriel Nadeau-Dubois, il y a sa garde rapprochée, c'est encore un boys club et les femmes ont pas la même voix au chapitre. Vous l'avez entendu comme moi, ça?
Je l'entends comme vous. Une chose est sûre, aucun parti n'est jamais arrivé à destination en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. En fait, aucune organisation, M. Arcand, dans une société où il y a encore des inégalités, peut dire la job est faite, tout est réglé, le féminisme est assuré et la voix des femmes est garantie. Il faut toujours être vigilant, qu'on soit dans une entreprise ou dans un parti, pour s'assurer que les femmes aient leur place. Et ça, c'est une responsabilité qui est partagée. Ceci étant dit, à Québec solidaire, si on prend l'aile parlementaire, notre permanence à Montréal, là, il y a 11 postes de direction. Sur ces 11 postes, 3 sont occupés par des hommes. Moi, ce que je vois au quotidien à Québec solidaire, c'est des femmes qui prennent la parole, qui font leur travail, qui ont du leadership. Ça a été le cas de mes co-porte-parole, Manon et Émilie. C'est le cas de mes collègues au caucus, de nos directrices, de nos attachés de presse, de recherchistes, de gens partout dans l'organisation, des attachés politiques, qui sont des femmes qui exercent du leadership et qui exercent du pouvoir dans notre organisation. Et là, je vous parle même pas de notre présidente et de notre directrice générale, qui font un travail admirable.
Bon, dans le fond, est-ce que c'est pas... Parce que les relations avec Manon Massé, en tout cas, vu de l'extérieur, semblaient bonnes. Françoise David, Amir Kadir. Est-ce que le fossé se situe entre des gens pragmatiques qui font de la politique puis qui disent, comme vous venez de le dire, là, on est là pour gouverner, c'est ça l'objectif, et des gens plus rêveurs, peut-être plus déconnectés, plus idéologiques, pour qui le pouvoir, c'est secondaire dans la mesure où on continue à faire la promotion des idées. Donc, espèce de face-à-face entre des gens pragmatiques puis des rêveurs.
Moi, je ne veux pas caricaturer quiconque. Je ne veux pas coller d'étiquette sur les autres. Mais je veux être clair sur la vision qui est la mienne. Cette vision-là, je n'ai pas le pouvoir de l'imposer à Québec solidaire et je n'ai pas la volonté non plus de l'imposer. Je veux qu'on fasse le débat. Et dans ce débat-là, ma position, et je la partage parce que je suis rendu à un moment de mon engagement où je dois être transparent et sincère avec les membres du parti puis avec aussi les centaines de milliers de personnes au Québec qui regardent Québec solidaire, qui sont sympathiques, puis qui veulent que ça fonctionne puis qui veulent qu'un jour on accomplisse notre projet de société. Je pense qu'il faut faire des changements pour qu'on devienne un parti de gouvernement. Ça veut dire des positions et un programme plus simple, plus pragmatique, ça veut dire aussi une structure modernisée, parce que cette structure, elle a été pensée à une époque où la réalité politique de Québec solidaire était complètement différente.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par structure plus simple? J'essaie juste de comprendre. Là.
Notre structure, elle est trop lourde. Il y a beaucoup de comités, il y a beaucoup d'instances, il y a une mécanique qui est complexe à faire fonctionner. Des fois, ça rend les prises de décision difficiles et aussi, des fois, ça rend l'imputabilité un peu plus floue. Qui est imputable de quoi exactement? Ça, c'est des questions qui sont importantes pour que notre parti, oui, reste démocratique, mais qu'on soit capable de trancher les enjeux de manière claire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui prend les décisions. Et ça, c'est important à l'interne, mais c'est aussi important à l'externe pour que les Québécois et les Québécoises sachent où est-ce qu'on s'en va puis comment on prend nos décisions.
Mais j'allais vous dire, puis c'est pas une caricature, là, Jean-François Lisée disait, il y a tellement de gens dans l'ombre à Québec solidaire que les porte-parole, on les connaît, mais est-ce pas eux, ce ne sont pas eux qui prennent les décisions, c'est ça se passe autour, puis eux viennent nous rapporter les décisions de l'ombre.
Monsieur Lisée le faisait en faisant des attaques partisanes, il faisait même de manière un peu mesquine envers mon ami Manon Massé. Je pense que les Québécois, d'ailleurs, n'avaient pas du tout apprécié cette charge-là contre Manon et contre Québec solidaire. Moi, je pose ces questions-là parce que je veux que ça fonctionne. Je pense que le modèle des co-porte-paroles, ça peut encore fonctionner, mais je pense qu'il faut le moderniser parce qu'il y a parfois du flou sur qui est imputable de quoi exactement.
OK. Toute comparaison est boiteuse, mais quand René Lévesque a pris ce qu'on a appelé le beau risque, il y a eu une fracture au Parti québécois. Il y a des ministres nombreux là qui ont quitté. Est-ce qu'on peut faire ce débat-là, celui que vous souhaitez, sans qu'il y ait des départs, sans qu'il y ait des gens qui disent « Écoute, moi, je suis pas confortable avec ça », dont vous le premier, là?
Moi, je suis à Québec solidaire et je souhaite y rester. Je souhaite aussi qu'on avance à la prochaine étape et après 7 ans maintenant comme porte-parole, et dans les turbulences qui ont été celles de la dernière année, c'est à ça que je suis arrivé hier comme décision. Il faut que je dise les vraies choses. Il faut que je sois transparent sur ce que je pense qu'il faut faire pour sortir de ce plafonnement politique qui est le nôtre depuis quand même un moment déjà. Mais je suis pas dans une logique d'ultimatum. Je suis pas dans une logique de poser des conditions. Je veux qu'on avance ensemble et je lance un appel au débat.
Il y a eu un René Random, c'est comme ça qu'on l'a appelé, quand René Lévesque est allé directement aux membres en disant je suis pas le parti. Si vous voulez que je reste, ben vous allez me donner un mandat. C'est ce qu'il a obtenu. Je comprends que vous n'avez pas l'intention de faire ça, mais avez-vous pensé à dire ça s'arrête là, je démissionne ou je vais aller faire autre chose parce que c'est rendu à ce moment-là que je peux prendre une décision?
Ouais. Ben, je veux pas me répéter, là, mais j'ai quand même envie de vous dire que je pense que tout le monde comprend, là, les gens qui nous écoutent doivent comprendre. Là, quand ça brasse, là, on se pose des questions puis on se pose toutes les questions. Et oui, hier, l'option de est-ce que ce serait pas plus simple de quitter? Oui, là, cette option-là, j'y ai réfléchi. Puis je pense que c'est normal de mettre toutes les options sur la table quand on est dans une situation difficile. Je me suis posé la question, puis ma réponse, ça a été non. On a besoin, en pleine crise du logement, il y a des aînés qui se font mettre à la porte. Il y a des gens qui font, il y a des centaines de personnes qui font la file pour un 4,5 à Montréal qui n'est même pas si abordable que ça. Il y a la crise climatique, rappelons-nous les inondations, les feux de forêt. Il y a la crise du coût de la vie, 15,75 qu'on a appris hier comme salaire minimum, là. Ça permet même pas aux gens de faire l'épicerie, ça. On a besoin au Québec d'un véhicule qui va changer les choses pour vrai. Je pense que ce véhicule-là, c'est Québec solidaire, mais que pour être à la hauteur de nos ambitions, il faut faire des choix.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci, M. Arcand.
Au revoir. Gabriel Nadeau-Dubois, qui est co-porte-parole de Québec solidaire.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Je disais tantôt, l'injonction demandée par deux étudiants a été rejetée par la Cour supérieure. Le campement, donc, est maintenu. Les manifestants sont toujours sur place et répètent qu'ils n'ont pas l'intention, mais pas du tout, de quitter. L'université dit, nous avons des règlements, on veut que la police intervienne. Alors, comment ça va évoluer au cours des prochaines heures? Est-ce qu'il y aura une négociation, discussion? On verra. Mais c'est important de revenir aussi sur le fond. Pourquoi ces manifestants sont là? Pourquoi ils ont décidé d'établir ce campement? Et avec nous, Neil Clapham-Ricardo, qui est membre de l'organisation Voix juive indépendante de Montréal. Monsieur Ricardo, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, on va parler du fond de la crise tantôt, mais je veux savoir, d'abord, qu'est-ce que c'est que Voix juive indépendante? Qui vous représentez?
Voix juive indépendante est une organisation qui existe maintenant depuis plus de 15 ans de juives et juives qui sont en solidarité avec la cause palestinienne. On représente des juifs et juives à travers le pays. Là, Montréal, c'est juste un de nos chapitres locaux, mais on a des chapitres de Halifax jusqu'à Vancouver, même l'île de Victoria. Et depuis le 7 octobre, on connaît une croissance fulgurante. Là. Les gens, ils pourraient peut-être, ils connaissent peut-être Jewish Voice for Peace aux États-Unis. Ben, c'est une organisation sœur de notre organisation ici au Canada.
Parlez-moi de vous maintenant, de votre parcours.
Moi, mon parcours, bah, écoutez, je suis d'origine juive, je suis canadien, juif, ashkenaz du côté de ma mère, séfarade du côté de mon père, et très rapidement, dans ma jeunesse, j'ai compris que la libération juive ne pouvait pas passer par ce qui se passe en Israël de manière quotidienne là pour les Palestiniens, que ma libération en tant que juif passait aussi par la libération du peuple palestinien, et donc je suis très fier de me tenir aux côtés de tous les membres de Voix juive indépendante et des étudiants qui sont courageux là, à McGill qui luttent tout ça, aussi pour ça.
Parlons du fond. Pourquoi ces étudiants sont là? Pourquoi vous êtes là, que vous faites la tournée comme ça puis que faites partie de ces voix étudiantes qu'on entend?
Ben, moi, je suis là. Je suis étudiant, mais à l'UQAM, donc pas à McGill. Je fais la tournée parce que je crois fondamentalement qu'il faut un désinvestissement de nos institutions de la guerre. Je pense que si les Québécois et les Québécoises savaient à quel point nos institutions profitent de la guerre, ils seraient complètement sidérés par ça. Ils seraient sidérés de voir, par exemple, que l'Université McGill a des investissements avec Lockheed Martin. On n'accepterait pas ça. Au Québec, on est quand même un peuple pacifiste. On a vu les manifestations contre la guerre en Irak et toutes ces choses-là. Et je suis fier de cette tradition québécoise. Donc, je pense que c'est le message aussi qui est envoyé là par les étudiants. Beaucoup, beaucoup d'étudiants juifs, on perd ça souvent dans les médias, mais on était des co-organisateurs de ça parce que nous, on ne veut pas que notre judaïsme serve de rempart, là, de bouclier pour faire l'infâme de ce qu'on voit à Gaza.
Critiquer Israël, critiquer le gouvernement Netanyahou, pour vous, c'est pas un geste contre les Juifs, c'est pas une attitude antisémite que de critiquer, par exemple, les opérations militaires actuelles.
Au contraire, c'est notre devoir. C'est notre devoir parce que on est des Juifs de conscience, on connaît, on vient de passer la Pâque juive là, c'est toute l'histoire de la libération du peuple juif d'Égypte. On connaît l'histoire de la Shoah, moi de ma famille, l'Inquisition. Comment nous en tant que Juifs, on peut se tenir pour ce qui se passe à Gaza en ce moment avec notre histoire, on peut pas, c'est intenable et c'est pour ça que je suis très fier de pouvoir porter ma voix en solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes.
Les relations demeurent tendues au sein de la communauté juive. Je voyais à Québec quelqu'un comme vous qui s'oppose à la guerre, qui s'est fait sortir de la synagogue pour la Pâque juive. Comment vous pourriez définir vos relations avec l'ensemble de la communauté juive?
Je pense que cette personne-là, d'ailleurs, est un membre de Voix juive indépendante.
J'imagine, oui.
On le connaît très bien. Je dirais que... C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont inconfortables, des personnes juives. Il y a une différence entre inconfortable, racisme, antisémitisme, et des personnes qui sont inconfortables qu'on leur dise qu'on n'est pas d'accord avec cette mythologie d'Israël qu'on a créée au sein de la communauté, qu'Israël est incritiquable, qu'Israël est au-dessous de tout. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de juifs et de juives qui sont en train de prendre les devants aujourd'hui, qui sont en train de dire, maintenant, ça se fera pas en notre nom. Donc, c'est sûr qu'il y a des tensions au sein de la communauté. C'est sûr qu'on va pas être d'accord, mais je pense aussi qu'on est à un point tournant au niveau de la communauté. On est à un point tournant, on voit justement de plus en plus de personnes se dire « Comment je peux aller à une manifestation de Black Lives Matter, mettre mon genou par terre et en même temps cautionner ce qui se passe en Israël en ce moment ?» On peut pas faire ça et c'est pour ça qu'on voit plein de jeunes juifs sur tous les campus là, américains, mais aussi ici à Montréal, à McGill.
Est-ce qu'il n'y a pas un danger, par contre, qu'il y ait un dérapage antisémite, que les attaques contre Israël prennent une couleur autre que celle que vous décrivez, là, mais que ça devienne carrément là ce qu'on a vu dans le passé, puis qu'on voit encore, c'est parce qu'il y en a des manifestations antisémites au Canada.
Deux choses là-dessus. Je pense que la première chose, c'est la chose qui met le plus le cible sur notre dos là pour dire en bon québécois, c'est le fait qu'on fasse l'amalgame entre juifs et sionisme. Et il faut vraiment dissiper cet amalgame-là. Le sionisme est une idéologie politique. Le judaïsme est des identités, une identité. Et donc, l'antisémitisme, c'est par rapport aux juifs. Quand je vois pas par rapport aux sionistes. Quand je vois, par exemple, des institutions de la communauté juive dire que la seule façon de protéger les juifs, c'est de protéger Israël, je pense à l'attentat contre la synagogue à Pittsburgh, Tree of Life, il y a quelques années. Mm-hmm. Cet attentat-là, c'est parce que Donald Trump disait que George Soros était le grand marionnettiste juif avec toutes les choses de conspiration qui menait la caravane de migrants jusqu'à la frontière. Un des appuyeurs de Trump a décidé de rentrer dans une synagogue et a tué plusieurs personnes. Qu'est-ce que Benjamin Netanyahu a fait par la suite? Il a accueilli en grande pompe le président le plus antisémite de l'histoire des États-Unis, Donald Trump. Donc, il faut vraiment qu'on fasse la part des choses. Et j'appelle aux institutions pro-israéliennes à arrêter de faire l'amalgame entre l'identité juive et l'identité israélienne, la critique d'Israël. La deuxième chose que je dirais, c'est j'ai jamais vu autant de solidarité avec les juifs. J'étais même ému de voir ça au campement de McGill. On a fait un souper pour la Pâque juive dimanche. On va faire un souper vendredi. Aujourd'hui, il y a un atelier sur comment être un bon allié pour les juifs au sein du campement mené par des campeurs juifs. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment à McGill. Et franchement, j'ai tellement de fierté pour ce que les étudiants font. Je pense qu'ils sont l'avenir et le démontrent aujourd'hui.
Quelques questions, si vous me permettez. La première, il y a beaucoup de gens de la communauté juive qui m'écrivent et qui me disent, après les attentats du 7 octobre, cette offensive terroriste du Hamas, Israël devait répliquer. Êtes-vous d'accord avec ça, qu'il devait y avoir une réponse, une réplique d'Israël?
L'affaire là-dedans, c'est que on voit seulement les choses depuis le 7 octobre. Quand on maintient un blocus illégal contre la population de Gaza depuis des années, c'est évident que cette population-là qui est meurtrie, c'était la combienième assaut contre Gaza, c'est évident que violence amène violence. Donc pour moi, oui, moi je veux la sécurité des Juifs. Moi je veux absolument la sécurité des Juifs. Est-ce que la sécurité des Juifs, c'est la guerre? Est-ce qu'on fait pas la guerre en Israël depuis 1948? Est-ce qu'on peut pas passer à autre chose? Est-ce qu'on peut pas penser à une paix? Moi je suis pro-paix. Je suis pour que les deux peuples se rencontrent et qu'on ait un Israël-Palestine ouvert à tous, où toutes les Juifs, toutes les Palestiniens, peu importe leur confession, peu importe leur identité, peuvent être là, peuvent vivre librement comme ils veulent. C'est l'importance. Je suis pas un ami du Hamas, je suis pas un ami de Benjamin Netanyahu. Je pense que le peuple palestinien, depuis des décennies, des presque 100 ans maintenant, résiste de manière pacifique à ça.
Quelle est la voie de passage à McGill? Comment vous attendez à quoi des autorités de McGill?
Je m'attends à quoi des autorités de McGill? Je m'attends à un dialogue. Je pense que c'est plus au compère, là. Moi, je compte pas.
Non, mais vous les connaissez, vous leur parlez, là.
Oui. Oui, c'est un désinvestissement. C'est de montrer que, premièrement, il y a eu un débat il n'y a pas si longtemps là sur le financement des universités au Québec. Mm-hmm. Très important. Moi, je suis étudiant à l'UQAM, fait que je suis pas content avec le financement nécessairement que nous on reçoit versus des universités comme McGill et Concordia. Mais il faut aussi voir comment ce financement se fait. Le financement au niveau privé, l'investissement dans des compagnies d'armes, tout ça. Je sais pas tous les investissements de l'UQAM, mais je me doute que l'UQAM a des investissements dans Lockheed Martin. Fait que je pense que l'important là-dedans, c'est de vraiment un peu amener cette chose-là en dehors du conflit entre Palestine et Israël. Bien sûr, elle est importante, mais aussi de voir pourquoi nos institutions universitaires postsecondaires sont en train de financer des compagnies d'armement. On devrait se poser des questions là-dessus. Et je pense que les étudiants montrent aujourd'hui que ils sont en train de faire exactement ce que l'on a appris de faire, de lutter pour la justice, de lutter pour la paix.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci, Monsieur Arcan.
Neil Clapham-Ricardo, qui est membre de l'organisation Voix juive indépendante à Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On parle souvent de la lenteur, des problèmes de communication entre les différents paliers de gouvernement ou les sociétés d'État. Gilles Bernard habite Hunsick et ça a pris 12 ans de démarche, 12 ans, pour que finalement il y ait ce qu'on appelle une capacité de discussion et de résultats entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal, l'objectif étant d'élaguer un arbre qui est en train d'endommager sa maison. Monsieur Bernard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour votre précieux temps accordé ce matin.
Ben, c'est très gentil à vous. Je veux prendre l'histoire du début. Ça fait 12 ans là, qu'il y a un arbre à côté de chez vous là, qui a un potentiel de problème puis que vous avez amorcé vos démarches avec la ville.
Oui, j'ai amorcé les démarches en janvier 2012. Et c'est que j'ai constaté que les branches de l'arbre étaient trop près de la maison. Puis à moins de 1 mètre, là, j'ai dit non, ça marche pas comme ça. Là. Alors, j'ai fait plusieurs démarches. J'ai au moins 6 plaintes écrites. J'en ai d'autres que j'ai pas retracées parce que c'était dans l'ancien système de la ville. 6 plaintes écrites, minimum 15 appels téléphoniques. Nombreux courriels, notamment 3 à Mme Nathalie Goulet, la conseillère municipale, en 2021, jusqu'à hier ou avant-hier. Et où j'ai commencé à penser à vous, M. Arcan, dans le bon sens du terme, là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu en 2021 3 inspecteurs différents qui sont venus. Et les 3 m'ont dit la même chose. On doit élaguer votre arbre en urgence. Et il y a 2 étapes, parce que ce n'est pas encore complètement réglé. Il y a 2 étapes. Il faut que dans un premier temps, Hydro-Québec passe pour couper les branches qui sont trop près des fils électriques. Par la suite, la ville passe. Et ça, on me dit ça depuis 2012, je le sais, ça. Et ce qui est étrange, c'est que en juin 2023, j'ai parlé à un haut dirigeant de la ville, un fonctionnaire, qui m'a promis que ce serait fait avant l'hiver 2024. En octobre 2023, donc l'hiver approche, il y avait neigé en Abitibi. J'avais écouté la radio météo. Alors j'ai appelé le monsieur, ou j'ai écrit au monsieur. J'ai dit, écoutez, là, il neige en Abitibi, là. Faut procéder. Et c'est là que j'ai pensé à vous, parce que le 6 octobre 2023, à 4 heures, la veille de l'action de grâce, un monsieur m'appelle, il travaillait pour le dirigeant, là. Il était nerveux, un jeune. Puis il dit, écoutez, ça va se faire à l'été 2024. Faire une histoire courte, parce qu'il y a plein de choses. Là. En février 2024, on me dit, ça s'en vient, M. Bernard, on m'appelle. Parfait. 26 février 2024, Hydro-Québec est en face de chez nous. Là. Enfin, ils vont commencer à élaguer pour les fils, le monsieur du Québec sonne à la porte. Il dit, M. Bernard, on peut pas faire votre arbre parce que les fils ne sont pas protégés par une gaine protectrice. Je connais rien là-dedans. On va revenir. Ah! Et là, c'est là que j'ai décidé de vous écrire au 30 avril, M. Arcan, pour expliquer la situation.
OK, je veux juste reprendre ça un petit peu, là. Donc, vous, là, ça commence il y a 12 ans. Ouais. Est-ce qu'ils ont perdu votre dossier?
Non.
Le problème, c'est un problème de communication entre la Ville et Hydro-Québec, à la base.
Oui, il est arrivé. Oui, il y a un événement aussi qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ils m'ont dit que le dossier était terminé, traité. Mais il avait fait l'arbre au 10 470, Clark. Moi, je suis au 10 490, Clark. Fait que ça a un peu défait les choses. Là. Puis, j'ai eu plusieurs échanges. L'ombudsman m'a dit, il faut que tu règles ça avec la ville avant. Il y a eu des dommages faits à la mansarde en 2022. Ils sont tous au courant de ça. Là. Et je dois préciser, M. Arcan, que les employés de premier niveau ou de deuxième niveau sont tous gentils et courtois. Mais c'est quand on monte en haut, là. C'est là que je pense qu'ils font pas vraiment de suivi. Et c'est pas terminé parce que le 30 avril, lorsque je vous ai envoyé le courriel, Mme Goulet, une demi-heure plus tard, parce que moi, je lui ai envoyé le courriel pour info, 30 minutes plus tard, elle m'écrit, le 30 avril, de deux jours, pour me dire, monsieur, comme Bernard, comme je vous ai déjà dit, Hydro-Québec doit passer avant. Ça, je le sais, depuis 2012. Le 30 avril, Hydro-Québec est passé. D'après moi, il avait déjà plein de filles, c'est correct. Hein? Ils ont protégé, ils ont coupé les branches près des fils électriques. Et là, j'ai écrit à Mme Goulet pour dire, bon, je comprends bien que la balle est dans votre cour. Elle m'a écrit ça de même. Là. Puis elle m'a répondu, oui, là, on va passer sous peu. Ben, on est 2 mai.
Alors, il reste le volet de la ville à compléter, c'est ça?
Yes. Puis il n'est pas complété.
Monsieur...
J'ai déjà parlé à des gens, j'ai tous les noms des gens à qui j'ai parlé. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a une personne qui m'a dit, écoutez, vous savez, notre agenda est surchargé. Ben, j'ai dit, moi, mon compte de taxe est surchargé aussi.
Mais, il y a une question, M. Bernard.
Oui.
Vous êtes d'une patience. Je comprends que c'est du bon monde, premier niveau, là, mais attendre 12 ans pour faire élaguer un arbre, puis pendant qu'on sait la partie de ping-pong entre la ville et Hydro-Québec.
Oui, je sais.
Vous êtes une bonne personne, vous.
C'est ce que mes amis me disent, là. puis ma blonde aussi. Là. Mais non, écoutez...
C'est incroyable, pareil. Quand on rit, mais c'est pas drôle.
Ce que j'ai pas aimé, M. Arcan, c'est quand on m'a appelé, puis c'est là que j'ai pensé, ça arrive des fois dans vos affaires à vous autres, hein, les journalistes, quand on m'appelle à 16h un vendredi de l'Action de grâce pour me écouter, ça se fera pas avant le printemps prochain. Ça, j'ai pas aimé ça. C'est là que je me suis dit, donc, enough is enough. Oui.
On espère que la ville va passer bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Monsieur Arcan, je suis persuadé qu'ils vont passer parce que quand je vous ai écrit le 30 avril, 30 minutes plus tard, la ville m'écrivait. Là. Puis d'après moi, écoute, à matin, là.
Ça devrait.
Non.
Ben, bonne chance à vous.
Si ça ne passe pas, je vais recommuniquer avec votre chercheuse.
Parfait. Excellent. Merci, M. Bernard. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Gilles Bernard est résident, citoyen, payeur de taxes en SIC. Comme je dis tout le temps, OK, ça a peut-être fait bouger, mais c'est pas normal pareil. C'est pas normal qu'un citoyen doit passer par une émission de radio, par une équipe de recherche, par un animateur pour faire couper un an. 12 ans! Pas quelqu'un qui se plaint après 6 mois, un an. 12 ans! 12 ans, puis là, c'est deux équipes. Hydro, on peut pas. La ville, ben la ville, il faut qu'Hydro passe. Oui, mais Hydro, va-tu passer? Je sais pas. Je veux dire, c'est inadmissible. Et quand on parle des taxes, on en paie des taxes, là. Puis que ça prenne tout ce temps-là, c'est hallucinant.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.